RCF.
Bonjour à tous. Ce début du mois de septembre, c'est le temps des rentrées scolaires, reprise des activités de loisirs ou sportives, rentrée des associations, bref, une rentrée pour tous en espérant que celle-ci apporte plus d'espoir que la précédente. Pour l'UNAFAM aussi, c'est la reprise de l'ensemble de ses actions avec ses accueils téléphoniques, ses rendez-vous d'écoute, ses animations diverses et ses formations. Mais cette association a sa particularité, sa spécificité. Et si quelqu'un veut y être accueilli, écouté et adhérer, il faut qu'elle soit concernée par la maladie psychique puisque les objectifs de l'UNAFAM visent essentiellement l'aide, le soutien et l'accompagnement des personnes qui ont un proche souffrant de troubles psychiques sévères. Alors, pour quelqu'un qui vit cette situation, comment peut-on faire la connaissance de l'UNAFAM ? Comment peut-on avoir accès à cette aide proposée ? Heureusement, la plupart des médecins, généralistes, psychiatres, les hôpitaux spécialisés, certaines associations connaissent l'UNAFAM et peuvent communiquer ses coordonnées et ainsi l'UNAFAM peut être contactée. La première intervention de l'association est donc basée sur l'accueil et l'écoute, qui sont des axes essentiels et primordiaux à son action. C'est pourquoi j'ai demandé à un de ses adhérents de se souvenir de son premier contact avec l'UNAFAM et de nous dire ce qu'il en a ressenti. Alain, merci d'être mon invité.
Bonjour.
Et d'abord, pourriez-vous me dire comment ou grâce à qui vous avez connu l'UNAFAM ?
C'est un peu par hasard. C'était, je pense, il y a plus de 10 ans, lors d'une réunion, j'ai croisé une personne qui m'a partagé qu'elle était écoutante dans une association. Et en fait, cette association, c'était l'UNAFAM. À l'époque, moi, j'étais plutôt intéressé par son travail d'écoutante. C'est là que j'ai, pour la première fois, entendu parler de l'UNAFAM, dont j'ai oublié le nom au fil des ans. C'était un long processus.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a incité à téléphoner à la permanence téléphonique, à reprendre contact avec l'UNAFAM dont vous aviez entendu parler ?
Eh bien, quand j'avais rencontré cette personne, notre proche ne présentait pas, a priori, de troubles psychiques. Et c'est par la suite que ça s'est déclaré, quoi. Et quand j'ai téléphoné, j'étais, je crois, quelque part en perdition. Vraiment. J'étais perdu, noyé, je ne savais plus trop où j'en étais. Et je ne savais pas comment faire avec mon proche. Voilà. Donc c'est alors que je me suis souvenu et qu'on m'a rappelé que je connaissais l'UNAFAM.
Vous pensiez qu'au départ que c'était une grosse crise d'adolescence, mais c'était finalement pas ça.
Non, c'était pas ça.
Est-ce que le diagnostic était posé ? Est-ce qu'on avait dit
non,
à votre...
aucun diagnostic à l'époque.
Donc là, vous vous êtes souvenu de l'UNAFAM et vous avez souhaité un rendez-vous auprès d'un écoutant. Et qu'est-ce que vous attendiez de cet entretien ?
Alors, ce que j'attendais de cet entretien, je ne sais pas trop ce que j'y attendais. Est-ce que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un ? Ça, je pense que j'avais besoin d'être rencontré par une personne et de pouvoir partager ce que nous traversions, moi et mon épouse. Parce que c'était aussi une période où non seulement moi, j'allais pas très bien, du fait de la situation de notre enfant, mais aussi notre couple, je sentais, était plus ou moins en péril.
Et est-ce que vous vouliez aussi connaître un petit peu plus la maladie et comprendre cette maladie ?
Alors moi, je voyais que dans les difficultés de relation que je pouvais avoir avec mon proche, c'est que moi, il y a plein de choses que je ne comprenais pas de la maladie. Manifestement, je n'arrivais pas à communiquer avec lui, je ne comprenais pas, parce que je suis plutôt quelqu'un qui est à l'écoute, qui essaie de comprendre l'autre, mais avec lui, je n'y arrivais pas.
Il n'y avait pas possibilité d'échange pour comprendre ce qu'il ressentait.
Je crois que ce qu'il vivait était trop fort pour moi. Ça m'impactait trop. J'ai découvert par la suite, c'est ce qu'on appelle la contamination psychique.
Voilà, hein. Ça vous dépassait.
Ah, ça me dépassait. J'étais pris dans un tsunami quelque part. Intérieurement, c'était ça. J'étais dans un tsunami intérieur, noyé.
Et est-ce que vous saviez que la personne qui vous a écouté, elle-même avait été confrontée, ou était toujours confrontée d'ailleurs, à la maladie psychique d'un de ses proches ? C'est le propre même de la personne qui est écoutante à l'UNAFAM. Est-ce que vous le saviez ?
Je crois me souvenir qu'elle nous l'a dit au début, parce que c'est le fait de nous l'avoir dit qui a fait que ça a permis directement d'ouvrir, je dirais, mon cœur et ce qui se passait, de dire ce qui se passait dans mes tripes, parce que je n'avais pas besoin d'expliquer ce moment, le pourquoi, depuis quand, ceci, cela. Je savais que cette personne-là, je l'ai senti, et ça, c'est important. Il y a eu contact immédiatement.
Oui, c'est ce que l'on appelle une écoute de pair à pair. C'est une écoute qui permet de mieux comprendre la souffrance, l'angoisse, la fatigue des personnes que l'on reçoit en tant qu'écoutant, parce que l'écoutant lui-même ou elle-même a connu les mêmes manifestations, les mêmes souffrances. Et donc, elle peut ainsi évoquer et faire partager sa propre expérience. Mais pour l'UNAFEM, ce partage d'expérience n'est pas suffisant. Et pour devenir écoutant, il y a obligation de suivre une formation spécifique qui est dispensée par l'UNAFEM nationale, pour effectivement comprendre un petit peu plus la psychologie de la personne que l'on reçoit. Quand vous êtes arrivé à l'entretien, dans quel état étiez-vous et comment viviez-vous votre quotidien?
Comme je vous l'ai dit précédemment, j'étais complètement désemparé. Il y avait un grand une espèce de désarroi intérieur qui pouvait ne pas se manifester extérieurement en relation, parce que on donne bonne figure, quoi. Mais intérieurement, j'étais complètement perdu, paumé. J'avais perdu pied, quoi.
Et votre enfant vivait encore chez vous à cette époque-là?
Alors notre enfant était, oui, il était encore chez nous à cette époque-là, oui.
Certaines personnes aussi ressentent un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous pouvez comprendre et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on ressent ce sentiment de culpabilité?
Oui, ça, je comprends tout à fait. C'est un sentiment même qui perdure quelque part, hein. On se demande ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait pour que notre proche soit dans cette situation-là, vive cette expérience-là. Enfin, ce soit ainsi, quoi. Ça, c'est évident,
Oui, parce qu'il y en a aussi qui peuvent se poser la question des gènes. Est-ce que c'est transmissible
tout à fait.
d'une famille, d'un grand-père, une
Oui, oui,
grand-mère qui
oui,
était
oui.
malade, qui a pu transmettre son gène à l'enfant, etc.
Oui.
Et ça peut aussi rejeter la culpabilité sur l'un ou l'autre du couple. Et quelquefois, ça fait du mal au couple qui lui-même, d'ailleurs, peut se séparer.
Tout à fait.
Vous êtes bien sur RCF et dans le cadre de l'émission Santé Plus, je reçois aujourd'hui Alain qui nous parle de sa première rencontre avec l'UNAFEM. Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées, des difficultés liées à la maladie de votre fils qui vous ont été le plus difficile à comprendre et à accepter surtout?
Alors moi, je viens d'une éducation assez, je dirais, stricte, et où, je dirais, le slogan, si tu veux, tu peux. Et longtemps, je pense que la difficulté de communication avec notre enfant, elle était pour moi à ce niveau-là. J'étais persuadé qu'il mettait de la mauvaise volonté. Et en fait, il ne pouvait pas. Mais ça, ce sont les formations par la suite qui me feront prendre conscience de ça, quoi.
Mais pourtant, à cette époque-là, il avait déjà été diagnostiqué.
Non, il n'a pas été
Pas
diagnostiqué à
encore.
l'époque, pas encore. Il avait des troubles de comportement, et il avait présenté des troubles de nature psychique, mais le diagnostic vraiment posé tel qu'il l'est aujourd'hui, il l'avait pas, et c'est très récent, très récent. C'est pour ça que je dis que c'est très très long.
Oui, donc c'est pour ça que vous disiez, si tu veux, tu peux.
Ben oui, je pensais qu'avec s'il faisait des efforts, pour moi, il faisait pas d'efforts. Il était, j'allais dire, il était fainéant quelque part. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça.
Et vous avez un autre fils.
Oui.
Lui, comment a-t-il réagi à la maladie de son frère? Il voyait que les réactions de son frère n'étaient peut-être pas tout à fait normales et elles n'étaient pas comme les siennes. Et quelle est actuellement, maintenant qu'ils sont adultes, leur relation entre eux deux?
Alors, ils ont toujours été très très proches l'un de l'autre. Hein, ils ont vraiment une belle proximité. Quand ça a été précisé que son petit frère avait une maladie de type psychique, bien évidemment, lui, je pense que c'est plus lui qui n'a pas compris. Il s'est dit pourquoi lui, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi c'est lui?
Un sentiment
Un
d'injustice.
sentiment vraiment d'injustice, oui.
Et puis
Vraiment.
maintenant, comment vivent-ils tous les deux?
Alors c'est vrai que notre fils a un traitement permanent, je dirais, mais ils sont très très proches et ils se voient régulièrement. Il y a vraiment une complicité quelque part. Ils se restent très très proches, quoi.
Pendant toutes ces épreuves, hein, pendant toutes ces années qui sont passées, comment avez-vous pu vivre au quotidien avec votre fils malade, et comment avez-vous pu trouver les ressources morales et physiques pour vous aider, parce que c'est nécessaire de vous aider aussi?
Alors je dirais il y a un travail personnel, c'est-à-dire il faut vraiment, moi j'aime bien marcher, j'aime bien faire de la randonnée, j'essaie de faire tout ce que moi j'appelle moi de l'ancrage, d'être bien resté terre à terre, Parce que c'est une maladie qui, je me dis que c'est une maladie du feuillage, ça emporte le cerveau, quoi. Il y a ça. Plus, nous avons de la chance d'avoir un réseau d'amis qui est vraiment une bonne proximité, donc des relations. C'est très important. Des activités artistiques et prendre du temps pour soi.
C'est important les relations amicales, hein, parce que quelquefois justement ça brise. Oui. On n'ose pas en parler parce qu'on n'ose pas être jugé. Et quelquefois les amis peuvent juger. Donc c'est vrai que c'est important de prendre soin pour être capable de prendre soin de l'autre. À la fin de votre entretien, est-ce que vous étiez satisfait? Est-ce que vous avez ressenti un bien-être? Pourquoi?
Ben oui, c'est vrai qu'à la fin de l'entretien, le fait est que nous avions passé un temps, ça avait dû durer, les entretiens, je me souviens, avaient dû durer autour de 3/4 d'heure, 1 heure. On y était allé avec mon épouse et vraiment, je m'étais senti accueilli et nous nous sentions accueillis.
Accueillis et écoutés.
Accueillis et écoutés, vraiment écoutés. Et entendus. Entendu.
Ça, c'est important. La personne qui vous a écouté vous a aussi certainement présenté les groupes de parole ou les formations qui sont proposées par les associations. Oui. Y avez-vous participé par la suite?
Alors, j'ai participé, moi, j'ai fait pas mal de formations par la suite. J'ai fait des formations à l'écoute, des formations aussi pour découvrir la maladie et connaître les ressorts de la maladie.
Et puis finalement, vous avez fini par vous investir dans l'association.
Bah, oui, je suis devenu... non seulement membre, mais également bénévole près de l'association.
Et écoutant aussi.
Et écoutant également, faisant de l'accueil,
l'écoute,
tout à fait.
Vous avez suivi les formations adéquates.
Oui, c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment apprécié, c'était la qualité de l'accueil, la qualité de l'écoute, ça vraiment.
Mais je vous remercie Alain, parce que c'est la fin de notre émission. Je vous remercie pour votre franchise, pour la clarté de votre témoignage. Mais il faut que j'ajoute que pour chaque personne rencontrée, l'écoute est différente selon la connaissance de la maladie, le stade de son évolution, la prise en charge ou non du proche concerné. Les questions peuvent aussi être très diverses, généralistes ou ciblées, et l'écoutant essaiera toujours d'apporter une réponse immédiate ou réfléchit s'il est nécessaire de faire des recherches complémentaires. Pour finir, je donne le numéro de téléphone de l'UNAFAM, le 03 80 49 78 45. Une permanence y est tenue chaque jour de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Retenez bien ce numéro pour vous ou pour quelqu'un de votre connaissance qui peut en avoir besoin. Si vous ne l'avez pas retenu, je le répète encore une fois, 03 80 49 78 45. Sinon, vous pouvez le retrouver sur notre site unafam.org/code-dor attaché.